RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Retour des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Ce matin, on débrief l'interview d'Emmanuel Macron. C'était l'événement sur notre antenne, Apolline de Malherbe, face au président de la République, dans le cadre magnifique du Grand Palais, qui sera l'un des sites olympiques. On est à près de 100 jours du début des JO, et vous le savez, RMC est la radio partenaire des Jeux Olympiques. Donc il fallait marquer le coup ce matin, et ça a été fait. Alors on débrief ce que le président de la République a annoncé avec Joël Dagostini, avec Bruno Poncet, avec Stéphane Manigold et puis avec celle qui était aux manettes ce matin, Apolline de Malherbe.
RMC, les grandes gueules.
Salut Apolline.
Salut Olivier, salut tout le monde.
On va rapidement te laisser te reposer, faire une petite sieste, mais raconte-nous un peu les coulisses. Alors tout d'abord, le cadre magnifique, comment le président avant l'interview était ?
Ben, franchement, assez, d'abord très courtois, plutôt heureux d'être là, c'est le sentiment que ça nous a donné. Nous, pour tout vous dire sur le lieu, on avait proposé la piscine olympique, c'est-à-dire le principe, on lui a vendu l'idée, on lui a dit voilà, nous RMC et BFM TV, mais RMC, on est la radio officielle, c'est les 100 jours, les JO, c'est comme une sorte de fil qui traverse toutes les questions qu'on se pose en ce moment dans la société, c'est la question des jeunes, c'est la question du sport, c'est la question du travail d'équipe, c'est des questions aussi bien sûr de sécurité et de diplomatie. Sur le lieu, nous on lui avait proposé donc la piscine olympique qu'il a inaugurée il y a 10 jours en Seine-Saint-Denis, et c'est lui qui nous a dit en fait je vais faire une visite de chantier, une visite d'étape du chantier du Grand Palais, qui sera un des lieux vraiment des Jeux Olympiques. C'est là qu'il y aura les épreuves d'escrime et de taekwondo, et on a dit banco, et je crois vraiment, enfin moi j'ai pas vu les images évidemment, donc c'est vous qui me dites,
alors, c'était très beau,
mais je crois que c'est pas mal.
La réalisation était magnifique, et alors ce qui était c'était assez surprenant, c'est que moi j'avais un peu peur parce que le lieu est immense, là ils vont être perdu sur ce plateau, et finalement il y avait à la fois le côté majestueux du Grand Palais, et en même temps il y avait l'intimité de cette interview, parce qu'en plus la Dream Team olympique était très bonne. J'ai trouvé David, Marion,
très à l'aise avec eux. Ouais, très à l'aise, très heureux d'être là. On a bossé évidemment, comme vous pouvez imaginer, d'arrache-pied depuis quelques jours. Et c'était, je crois vraiment, enfin moi j'ai adoré bosser avec eux parce que ils sont évidemment ultra compétents. Mais en plus, ils avaient bossé,
ils étaient directs,
heureux d'interviewer. Ils sont hyper directs. Il y avait la franchise d'RMC. Je crois qu'on a réussi à la faire ressentir ce matin, la franchise d'RMC. Bon, alors évidemment, l'actualité nous a rattrapés. L'attaque de l'Iran sur Israël, donc c'était aussi l'occasion pour le président, c'est de l'entendre, c'était la première réaction officielle d'Emmanuel Macron depuis la nuit de l'attaque samedi, et il n'a évacué aucune de mes questions, donc
concernant les JO, il fallait à la fois qu'ils soient rassurants, parce que les Français doutent. Il y a ce sondage qui est paru ce week-end. 53% des Français sont inquiets sur l'organisation, sont inquiets sur la cérémonie. Donc il fallait qu'ils rassurent. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de la récupération, parce que on pourrait l'accuser de vouloir s'approprier des Jeux Olympiques. Qui avant tout, c'est la fête du sport. Avant, c'est pas le président.
Si c'est un échec, ce sera de sa faute.
Après sur la question de la sécurité, moi j'étais quand même nourrie de toutes les questions, même si on n'a pas pu toutes les porter à l'antenne des auditeurs, mais je veux dire, moi je les ai lues tout le week-end, tous les messages qu'on a reçus, et c'est vrai que la sécurité c'était quand même la première inquiétude. On peut même dire que quand on dit Jeux Olympiques aux Français, en tout cas jusqu'à ce matin, spontanément ils répondaient inquiétude, sécurité. Peut-être que le président a réussi à les convaincre. Vous avez entendu Christelle, elle n'était pas totalement convaincue. Elle a quand même fini en disant « Bon, j'espère qu'il passera ce jour-là et qu'on n'aura pas à se poser la question. » David Douillet a quand même proposé à notre auditrice Christelle de prendre son fils sous son aile le jour de la cérémonie. Moi, si j'étais Christelle, j'aurais accepté.
Oui, bonjour Apolline. Moi, j'ai trouvé l'exercice vraiment bien. En plus, enfin, ce qui était intéressant, c'est que vous avez fait du Apolline, donc par moment vous le coupiez, donc ça c'était pas mal. Il est pas habitué. Mais est-ce que vous avez été rassuré par son discours ? Est-ce que vous, parisienne, vous êtes comme moi, vous prenez les transports, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez été rassuré de vous dire ça sera prêt le jour J ? Parce qu'aujourd'hui les transports, c'est vraiment le point noir de tout ça en fait.
Ouais, alors franchement, d'ailleurs il l'a reconnu lui-même, hein. Il a dit il y a des trucs sur lesquels on n'est pas prêt, notamment sur aussi les questions de l'accessibilité, etc. Moi, il y a un point sur lequel j'ai été plutôt rassurée, c'est la scène. Je vais être tout à fait honnête, il y a 8 jours là, quand j'ai vu les ONG là qui avaient fait des tests dans l'eau, qui avaient vu les bactéries et tout, je me suis dit mais ça ne marchera jamais. De toute façon, Chirac nous avait déjà fait le coup, on nous avait promis qu'on y arriverait, on finalement ça n'a jamais marché. Bon. En vrai, quand vous écoutez à la fois le préfet de l'Île-de-France et le président ce matin, ce que vous comprenez, c'est que les tests là dans lesquels il y avait des bactéries, ça a été fait juste après la crue, pendant l'hiver. C'est un peu de la provoque.
Bon, après, on a dépensé plus d'un milliard d'euros pour que ça marche. Hein.
Exactement. Comme vous le remarquerez, je lui ai quand même demandé si c'était pas au moment où on est tous censés se serrer la ceinture, un pari étrange. Après, lui, il a l'air de dire que c'est un investissement sur le long terme. On verra.
Oui, il a dit qu'on allait apprendre à nager à nos enfants dans la Marne et dans la Seine. Voilà, Joël, ça t'a rassuré?
Non,
Joël,
mais
elle ne sait pas nager.
Non, c'est vrai.
Ça balance.
Bah, tu nous l'avais raconté.
Oui, c'est vrai. Non,
alors,
c'est
est-ce
vrai.
Est-ce que tu serais prête à apprendre à nager dans la Marne?
Non, du tout.
Avec des bouées sur les bras.
Non, du tout. Et en fait, c'est bizarre parce que je l'ai trouvé plutôt convaincant. J'ai même trouvé que l'émission était dynamique. Je me suis dit 40 minutes, 50 minutes, ça va faire long. En plus, comme il est assez bavard, mais je trouve qu'Apolline, vous avez bien réussi à dynamiser. Enfin, c'était rythmé, donc on s'est pas ennuyé.
On est des bons camarades.
Et sur la question justement du sport, qui a été très bonne de, je crois que c'était Marion Bartoli qui a posé la question du sport, la place du sport à l'école. Oui. C'est le seul moment où je l'ai trouvé pas bon dans la méthode, parce qu'elle lui a demandé quelle méthode concrète en fait il comptait appliquer.
Ouais.
Pour...
Il n'y en avait pas.
Ouais, il n'y en avait pas. On a vu vide. C'était dommage.
Oui, parce qu'on est censé cette année inciter notamment les jeunes à faire plus de sport à l'école,
c'est
etc.
Ça. Ouais. C'est ça. Et là, c'était vide, alors que tout le temps, tout le long de l'exercice, il était plutôt bon.
Non, je suis assez d'accord. Sur la scène, bon, moi j'ai promis quand même, je l'avais dit à l'antenne la semaine dernière, j'ai promis de me baigner si vraiment c'est au point. Donc,
j'y vais avec plaisir.
Bah, Stéphane Manigault y va aussi.
Mais Olivier, Stéphane, vous venez avec moi?
Ah, mais moi, moi je viens avec plaisir. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'en France, on a déjà des fleuves dans lesquels on peut se baigner. Ça s'appelle le Rhin en Alsace. Et en bon alsacien, je me suis déjà baigné dans le Rhin. On peut se baigner dans la Loire. Nos amis qui nous écoutent de la Loire peuvent se baigner.
Mais pourquoi pas la Seine alors?
Tu peux te baigner dans la Seine.
Moi, je viens avec Apolline. Moi, il m'a rassuré,
le président. Moi, je me suis déjà baigné dans la Seine, mais pas à Paris. Tu peux te baigner effectivement dans la Seine, mais pas près de la ville.
Ce qui est dommage, Apolline, c'est que le président, je pense qu'il aurait dû insister sur le coût. On lui tape dessus en disant ça coûte 9 milliards. Je rappelle simplement que budget de Londres, c'est 15 milliards. Rio, en 2016, c'est 13,7 milliards. Et Tokyo, c'est 28 milliards de dollars.
Oui, et même si on est précis, en fait, c'est 10 milliards. Mais pour l'État, c'est entre 3 et 5 milliards. Le reste, c'est des investissements privés, c'est aussi des infrastructures, des associations, etc. C'est vrai que de ce point de vue-là, alors après, ça reste
beaucoup qui a
de milliards
déjà été dépassé,
dans un moment où, en effet, on a plus de fric, mais cela dit quand même, globalement, ils sont beaucoup plus tenus. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu très très peu de construction, à part la piscine olympique, en gros,
la piscine de
Saint-Denis. Le reste, c'est plutôt de la rénovation de lieux existants. Je trouve que la stratégie est plutôt bonne.
Bon, mais merci Apolline. Merci.
Merci à vous.
À toi.
Salut Apolline.
Et à demain matin. Jérôme est avec nous, 32-16. Salut Jérôme. Bonjour Jérôme.
Comment allez-vous?
Très bien. Jérôme. On est en pleine forme. Maître d'hôtel du côté de Perpignan. Avez été rassuré par les propos du président, notamment concernant la sécurité? Il a parlé de plan A, B, C pour la cérémonie d'ouverture. Le plan A, c'est la Seine. Ouais. Le plan B, c'est le Trocadéro. Et le plan C, c'est le Stade de France.
Ouais, pas du tout. Moi, d'abord, je félicite l'interview. Impeccable. Bravo à RMC. Enfin, on l'attend quand même sur le plateau des GG, nous, les auditeurs, à quand l'invitation est lancée. Mais bon.
Alors attendez, moi, Jérôme, vous savez que je me suis battu comme un diable pour avoir Emmanuel Macron pendant la présidentielle.
Mais on va continuer.
Vous savez qu'on est persévérant. Nous allons fêter les 20 ans des Grandes Gueules à la rentrée. Et nous avons pour mission d'inviter Emmanuel Macron pour les 20 ans.
J'ai lui fait des gâteaux. Et moi, le point et le sujet, c'est qu'est-ce qu'on attendait, nous, les auditeurs? Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français? Des paroles fortes. Et surtout sur les fichiers S. Moi, j'attendais que le président, il dise bon, ben voilà, maintenant c'est terminé. Je dis aux Françaises et aux Français, si ils ne sont pas rassurés par rapport aux fichiers S, il y aura des assignations à résidence pour tous. Il y aura des mises à l'écart. Il y aura des décisions judiciaires qui vont tomber avant les JO. Là, c'est des paroles fortes. Là, on aurait entendu, on aurait eu une écoute en disant ah, là, on peut, même si le risque zéro n'existe pas, on peut être rassuré. Or, ça, il n'y a pas de parole.
Pour vous, pour l'instant, ce sont des belles paroles.
Non, mais Jérôme.
C'est des paroles, si vous voulez, qu'on voit au quotidien. Moi, le quotidien, la sécurité, mon frère est flic, vous le savez. Moi, je suis rassuré. Ils vont être présents. Les forces de l'ordre sont mobilisées, à défaut de certains territoires qui vont peut-être avoir un manque d'effectifs. Mais soit, tout le monde va y être. Tout le monde va y être.
Mais Jérôme...
Les fichiers S, tout individu à risque ou qu'il y a...
Mais il y a déjà c'est déjà le cas, parce que dans le recrutement, par exemple, des agents privés de la sécurité privée...
On en a écarté
pas mal, parce qu'il se trouvait qu'en regardant les profils de certains candidats, il y avait des problèmes.
Ils n'assuraient pas la sécurité. Non. L'insécurité, plutôt.
Non, mais Jérôme, en plus, fichier S, ça veut tout dire et rien dire, oui. parce que moi, personnellement, j'ai été fichier S, je ne sais pas si je suis encore, quand j'étais délégué syndical.
Oui, toujours.
Et donc, en fait...
Depuis que t'es dans les GG, pareil, que t'es fichier WS.
Ouais, WS, ou même voire un W, même. Mais en fait, ça veut rien dire. Parce que vous pouvez... Et en plus, rappelez-vous quand même qu'on peut quand même se vanter d'avoir un pays démocratique. Et donc, à un moment donné, on ne va pas les foutre. Vous ne pouvez pas les assigner à résidence chez eux.
Mais là, il parle des
dangereux pour la société.
Oui, mais vous regarderez bien. Certains profils de terroristes ne sont pas forcément des gens qui étaient fichés avant.
C'est vrai.
Voilà, donc à un moment donné. Je ne vais pas vous rassurer, mais c'est comme ça. Hein.
Non, mais moi, je ne vais pas le rassurer. Mais je vous invite quand même à aller sur le compte de Gérald Darmanin qui publie après chaque jour des expulsions de fichiers S de type des attentats. Il en a parlé, ils ont démantelé des attentats, un attentat qui était en préparation à Strasbourg.
Que les forces de l'ordre, que nos services de renseignement travaillent d'arrache-pied, c'est une chose.
Moi, je leur fais confiance absolue.
Après, c'est vrai que cette parade des bateaux sur la Seine qui va durer plusieurs heures ce 26 juillet, on s'est mis une charge supplémentaire.
C'est vrai. Oui.
Alors, ça sera très beau si c'est réussi.
Mais quand tu te maries, moi, j'ai envie de voir.
Mais si ça marche pas, il faudra quand même se poser
question. Tu veux voir en étant sur un bateau ou au bord de Seine, ou tu veux voir de chez toi à la télé?
Mais je pense que ça sera peut-être plus un spectacle télévisuel.
Ah bien, je pense. Oui.
Parce qu'en bord de Seine, tu vas attendre que les bateaux passent et c'est long. C'est le peloton du Tour de France.
Ce qui a été bien, c'est que le président a affiché une ambition ferme. Il a dit on réussira, on le fera.
Oui.
Et personnellement, j'avais besoin d'une communication positive, et donc j'avais aussi besoin.
Ça t'a rassuré.
Ouais, de sentir. Bah ouais. En fait, de sentir quelque
tu
part.
Tu pourrais sur les quais. Le 26 juillet.
T'as envie d'y aller, toi, Joël?
T'as envie d'y aller?
J'aimerais participer à la fête, mais je suis pas sûre que, en fait, le spectacle, c'est-à-dire le fait qu'on puisse voir réellement ce qui se passe.
Tu viens peut-être pas grand-chose.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, je suis partagée entre participer un peu à la fête et être dans l'ambiance.
Et être
chez soi et vraiment voir ce qui se passe.
Mais tu vois, on a dit que c'était les chips pour les riches.
Des Pringles.
Moi, je répète, 220 000 billets distribués gratuitement pour la cérémonie d'ouverture.
On sait pas à qui.
Fabuleux.
Hein,
et on a dit aux Parisiens, aux Français, partez, machin. Mais non, on a la chance d'accueillir.
Si tu es rue de Rivoli, tu vas pas avoir grand chose, en fait. Des 220 000 places, si c'est pour être rue de Rivoli,
mais alors,
tu vas avoir grand chose, en fait.
Mais alors?
Ah, mais alors, mais non, mais rue de Rivoli, si c'est pour voir, non, mais sérieux.
Est-ce qu'on verra
franchement, moi qui connais un peu les quais, tu verras presque un peu mieux sur les quais hauts, en bord de quais hauts, que
Ah, faut pas faire la taille de Mimati non plus, hein, c'est sur les kios, je te plais. Hein,
c'est pas non, mais...
Avec les machines de bouquinistes et tout.
Bruno, tu trouves
gratuit,
un problème. Dans chaque solution, c'est incroyable.
J'aime ça, j'aime beaucoup.
En tout cas, c'est une solution, tu trouves le problème qui est dans la solution.
Je peux trouver des solutions à tout, mais j'aime beaucoup trouver des problèmes.
Bâtisseur de ruines.
C'est beau,
Antoine, merci Jérôme, merci d'avoir appelé au 32-16. Antoine est avec nous, il aura le mot de la fin sur ce débrief, et puis après, on va passer à autre chose. Salut Antoine.
Ah bah, je suis ravi qu'on finisse en beauté. Bonjour.
Vous êtes directement concerné.
Je parlais pour Joël Dagosséry, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Halte au pisse vinaigre. Il faut quand même être positif. Moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré par Monsieur Macron. Moi, je suis pas macronien du tout, mais il a eu raison. Il faut être positif. Il va y avoir des désagréments, des inconvénients, pour répondre à quelques autres grandes gueules. Mais c'est 3 semaines tous les 100 ans. Arrêtons. Et quant à la sécurité, évidemment, la sécurité, elle sera jamais parfaite. Et on va pas dévoiler non plus tous les plans qui ont pu être préparés, FGH. J'ai comme,
Ça vous a rassuré qu'il y ait un plan B, un plan C?
Mais je m'en fous, j'ai pas besoin de savoir. Les apprentis terroristes, ils sont aussi à l'écoute. Donc si on dévoile tout ce qui a été préparé, moi je fais confiance à la sécurité. On est très bien équipé pour ça. Il y a des attentats qui sont déjoués. Donc arrêtons.
Il faut positiver.
S'il y a un ouragan sur Paris, s'il y a un ouragan sur Paris le 26 juillet, bah, on fera autre chose, évidemment. Mais
demain soir, un ouragan sur Barcelone, moi je vous le dis.
Ça va être la guerre.
Un ouragan sur Barcelone demain soir. Référence au match retour avec le Barça.
J'espère bien aussi. Le dérangement climatique, c'est ça. Non, mais
bon, Antoine, je note, vous dites arrêtons de tout critiquer, il faut être positif.
Exactement.
Mais on a envie, effectivement, que c'est géorisé. Mais ça, je crois que tout le monde a envie. Enfin, personne ne fait le pari que ça soit.
Si.
Ah bon?
Il y a des gens, bah si, parce qu'il y a des gens qui ont envie que ça se plante, comme ça, ils pourront accuser Macron, etc.
Ils font de la politique surtout.
Oui, mais
il y a des sujets qui sont apolitiques. Le sport, il est universel. Ça s'adresse d'abord à la jeunesse, ça s'adresse pas aux politiques.
D'ailleurs, tu te souviens du médaillé d'or, tu te souviens pas du président qui était là à ce moment-là.
Pardon,
mais dans l'histoire. Non, mais l'histoire de l'Olympisme.
Ouais.
Parce que c'était chez Hitler. Mais dans l'histoire de l'Olympisme, tu te souviens des champions, de ceux qui
ont eu. Non, tu te souviens des grands moments politiques. Moi, je pense.
Tu te souviens pas du président de la République.
Les deux plus belles images, c'est Jesse Owens devant Hitler. Et la deuxième image, c'est quand même les trois blagues qui sont sur le podium du saut en hauteur.
Tu te souviens pas spécialement qui était président des États-Unis à ce moment-là.
Bah oui, tu t'en fous d'ailleurs.
C'est Nixon. Ouais, je pense.
C'est Nixon. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de l'interview ce matin sur RMC BFM TV d'Emmanuel Macron. C'était l'événement RMC Radio officielle des JO. D'ailleurs, puisque nous sommes à J-100 des Jeux Olympiques de Paris, on a décidé de vous gâter cette semaine. On va vous offrir 100 places, des places introuvables, mais RMC vous les fait gagner. Et vous allez pouvoir d'ailleurs choisir soit la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, le judo, le tennis de table. Pour cela, vous envoyez le mot Paris 2024, tout attaché, sans espace, Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Une gagnante ou un gagnant tout à l'heure avec nous à 11h20 pour remporter l'une des 100 places offertes par RMC cette semaine. Dans un instant, retour des grandes gueules. Tiens, je ne sais pas si vous avez vu ça, Audrey Lamy, la comédienne qui refuse de porter plainte contre des sans-papiers qui ont cambriolé sa résidence secondaire. Elle a été touchée par leur histoire.
Oh, bah écoute,
Est-ce qu'elle a un grand cœur, Audrey Lamy? Est-ce que vous auriez la même empathie, mes chers grandes gueules? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec autour de la table aujourd'hui le restaurateur Stéphane Manigold, le cheminot Bruno Poncet et la coach de vie Joël Dago-Séry. On va revenir sur la mésaventure vécue par Audrey Lamy, vous savez la comédienne qui a été cambriolée par des sans-papiers, mais émue par leur histoire, elle a refusé de porter plainte malgré un préjudice de 18 200 euros.
RMC, les grandes gueules.
Je vous raconte cette histoire. Trois individus se sont introduits à son domicile du sud de la France. Ça s'est passé en octobre 2022. Sachant qu'il y avait pas mal de cambriolages d'ailleurs dans cette région. Ce n'est pas la première personnalité publique à être cambriolée. C'était son domicile secondaire situé dans l'Hérault. Elle était en tournage, donc elle n'était pas sur place. Les cambrioleurs lui auraient volé des sacs à main de luxe et des bijoux pour un total s'élevant à 18 200 euros. Un an et demi après les faits, alors que le procès s'est tenu le 3 avril dernier à Montpellier, eh bien la presse a révélé que la sœur d'Alexandra Lamy avait abandonné les poursuites. Alors, il y a eu comme un procès, il n'y a pas besoin de porter plainte pour qu'il y ait un procès. Mais elle a refusé, elle, de porter plainte contre eux en raison de leur statut social. En fait, lorsqu'elle a appris que ces trois hommes étaient d'origine italo-bosniaque en situation irrégulière en France, eh bien, elle a fait preuve d'empathie. Elle a été touchée par leur histoire. Alors, il faut quand même préciser que ces cambrioleurs n'étaient pas des perdreaux de l'année, puisqu'ils étaient impliqués dans près d'une quinzaine de vols sur toute l'année 2022. D'ailleurs, leur procès a donné lieu à des condamnations, une condamnation pour de la prison ferme, notamment. Est-ce que vous comprenez, Audrey Lamy, est-ce que, à sa place, vous pourriez faire la même chose, c'est-à-dire, voilà, bah écoutez, ce sont des sans-papiers, ils n'ont pas de moyens, ils ont une situation difficile. Voilà, je laisse passer. Joël Dago-Séry.
Non. J'ai pas cette
grandeur d'âme.
Non, je suis trop terre à terre. Pour moi, tu m'as volé, tu dois payer. Donc, non. Maintenant, je vais pas. J'ai vu beaucoup de critiques sur son choix, etc. Je pense que ce choix lui appartient. Elle a ses convictions. Elle a très bien. Elle a le droit de ne pas porter plainte. Et c'est pour ça justement que notre système judiciaire est bien fait. C'est que tout ne repose pas sur les victimes, heureusement, parce que quand on est victime, quelquefois, on n'a pas la capacité, des fois pas l'envie, mais même des fois, tu te reconnais même pas encore en tant que victime, que la justice est déjà sur le dos de l'agresseur, et tant mieux. Donc ça, c'est le système judiciaire, il est bien fait de ce point de vue-là. Après, il faut pas que ça fasse culpabiliser les autres, c'est-à-dire parce que avant elle, il y a eu pas mal de stars qui ont été ou de personnalités qui ont été cambriolées. Ah ouais. On est tout à fait dans notre droit de porter plainte.
Oui, mais la pression si, sur les autres en disant mais, attends, si ouais, tu portes plainte, t'es un méchant. Quoi,
exactement,
en fait.
Ça fait un peu comme Blanche Gardin qui avait refusé comment on appelle ça, les revenus de LOL parce que Amazon, etc. C'est des méchants.
Elle était trop bien payée, voilà, par rapport à sa prestation.
Voilà, exactement. Donc du coup, les autres sont un peu des mercenaires et tout. Donc non, je pense que chacun ses convictions. C'est très bien si elles se sentent bien de l'avoir fait. Mais moi, je rappelle quand même que le cambriolage, au-delà de l'argent, enfin, ça traumatise des gens. C'est une violation de ton intimité. Là, elle avait de la chance, elle n'était pas là. Mais il y en a beaucoup qui étaient sur les lieux.
Il ne faudrait pas banaliser.
Exactement, c'est pas banalisé. C'est pas une question de 18 000 euros. C'est une question réellement de traumatisme psychologique.
Surtout, visiblement,
et même de violence.
C'était pas le premier cambriolage. Perpétré par cette bande.
En plus, c'est pas des sans-papiers, les pauvres. Non, enfin, ils font partie d'un trafic. Enfin, oui. Je veux dire, d'une bande organisée.
C'est des gredins.
C'était quoi? Ça faisait longtemps, ça.
Ouais, ça fait longtemps, mais c'est bien de temps en temps de mettre comme ça des mots un peu anciens.
Ça permet un
pari.
Gredin, c'est beau.
Gredin. Tu perds un pari, tu places.
Stéphane Manigol, est-ce que tu aurais pu, comme Audrey Lamy, faire preuve d'empathie et ne pas porter plainte contre tes cambrioleurs?
Quelqu'un qui vole de la nourriture pour s'alimenter, j'ai aucun problème à avoir de l'empathie. Quelqu'un qui vient voler des objets de luxe dans une maison, franchement, j'ai pas d'empathie. Et elle fait un espèce de bad buzz parce qu'elle rase gratis au fond. Elle a quand même porté plainte, rappelons-le. Ils ont été condamnés. Et je rappelle qu'au pénal, c'est pas parce que tu retires ta plainte que le parquet ne peut pas poursuivre. Donc le parquet a poursuivi et a condamné. Et le parquet a eu raison de poursuivre. Normal. Donc en fait, elle commet deux erreurs pour moi. C'est qu'elle rase gratis au nom d'une espèce de morale bien pensante, gauchisante. En gros, moi, c'était pas grave. J'ai pris sa déclaration. Hein. Je ne porte pas plainte, c'était des gamins. Ils n'ont rien pris de grave. Oui, c'est vrai que le luxe, c'est pas grave. Mais en soi, tu vas peser une espèce de bonne conscience sur tous les autres acteurs et actrices qui pourraient aussi subir. Et qui pour eux, ça pourrait être grave. Donc tu n'as pas à espèce de poser une espèce de jurisprudence Lamy au nom de ta bien-pensance, qui en plus, je le répète, elle rase gratis. Parce qu'en retirant sa plainte, il y a quand même des condamnations d'arrêt, ça ne change rien.
Bruno Poncet.
Moi, je trouve qu'on lui prête beaucoup d'intention. Elle a juste expliqué pourquoi elle portait pas plainte et basta. Moi, je comprends tout à fait qu'elle l'ait fait. Parce qu'en fait, tu peux très bien qu'on retrouve tes affaires. Les mecs seront condamnés parce que la justice a fait son taf. Mais elle peut très bien dire, moi, je porte pas plainte. Parce que porter plainte, c'est aussi après, ton avocat peut réclamer des dommages à intérêt. Enfin, toi, il y a plein de trucs derrière. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait,
publiquement, en faisant savoir que tu ne portes pas de plainte parce que tu as été touché par l'histoire, est-ce que tu donnes pas raison finalement à ces cambrioleurs? Est-ce que c'est pas une c'est un blanc-seing que tu donnes à ces malfrats qui commettent des cambriolages à répétition? Alors ils se sont fait arrêter et condamner. Et puis c'est un blanc-seing que tu accordes. Finalement, allez-y, c'est pas grave. C'est que du matériel.
Là, tu tombes parce qu'on en a la preuve. Regarde.
Si jamais ces cambrioleurs étaient tombés sur quelqu'un, j'imagine qu'Audrey Lamy avoir du personnel. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui est là, une femme de ménage. Et ça se passe mal.
Oui, on est en train de faire le scénario.
Ça se passe mal,
Mais regarde, là, on est quatre. Vous êtes trois à avoir dit, bah, nous, moi, je porterai plainte. Donc, ça veut dire que ça n'a pas d'influence sur toi.
Moi, j'ai rien dit.
Donc, tu vois, donc, en fait, ça veut dire qu'Audrey Lamy, ce qu'elle a fait là, elle le fait pour elle et elle ne dit pas aux autres, faites comme moi. C'est pas comme, parce que Joël a raison, c'est pas comme Blanche Gardin qui dit, regardez, vous faites un jeu, vous allez toucher plus que le mec que l'association. sensation qui va gagner. Donc en fait, Audrey Lamy, elle parle pour elle, elle parle pas pour tout le monde. Arrêtons de prendre les artistes, les sportifs pour des porte-parole de tout le monde. En fait, toi, quand tu fais un truc sur Twitter, tu parles pas au nom de tout le monde, tu parles au nom à ton nom à toi. Tu fais au nom de tout le monde, tu dis pas dans l'émission. En fait, c'est moi, je pense qu'elle m'en dit, arrêtons ça. Moi, je pense qu'Audrey Lamy, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Et si demain il y a un autre cas et que peut-être la personne prendra un objet à elle qui la tiendra beaucoup, elle portera peut-être plainte parce que là, elle a été touchée dans son cœur. Mais là, on s'en fout. En fait, la meuf, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je trouve ça bien.
Il y a une différence, c'est que ce sujet est médiatisé et elle a accepté de répondre à la presse, elle a accepté de répondre au Figaro, elle a accepté de répondre à RTL. Donc à partir de personnalité publique, ce n'est plus dans ta sphère privée.
T'as jamais fait de médias, c'est la même déclaration qui est prise par tout le monde. Elle parle à l'AFP et après ça
parle. Oui, mais elle a parlé.
Mais peut-être parce qu'on lui a posé la question parce que les gens ont su qu'elle
était obligée de répondre. C'est ses convictions personnelles.
Mais voilà, tu es peut-être dans, tu viens de dire personnel. Donc ce qu'elle a dit, ça ne te concerne pas toi en fait.
Mais si, puisqu'elle l'a donné public.
Mais non, mais moi, je m'en fous. Notre ami demain mettrait son slip sur la tête, que je ne mettrais pas mon slip sur la tête parce qu'elle l'a fait en fait. Bah non, je ne porte pas de slip, donc je porte des
calcettes. Non, mais en fait, on est aussi dans une époque où les gens n'ont pas envie d'entendre. De la bienveillance, de la clémence, du pardon. En fait, ils veulent absolument de la vengeance, du sang, on réclame des noms.
Non, mais sans vengeance, tu vois, mais l'autorité et de la punition.
Oui, mais ça va plus loin que l'autorité et la punition. Ouais, on réclame des noms, on réclame. Tu vois, les gens, on veut savoir les noms, on veut savoir si. Et donc, comme elle a une parole plutôt d'apaisement en disant, oui, voilà, bon, c'est pas grave, etc. Donc, personne ne l'accepte. Moi, je dis que ce sont ses convictions, qu'elle a tout à fait le droit, mais que nous qui allons porter plainte, qu'on ne nous culpabilise pas en disant qu'on n'a pas le cœur sur la main parce qu'on ne ferait pas comme Audrey Lamy.
Si tu me voles une paire de baskets, je peux te garantir que je vais porter plainte direct. Ça va être la guerre tout de suite.
Ouais, c'est marrant parce que vous, tous les trois, vous portez plainte.
Non, moi je porte plainte après des vols. Parce que moi, tu sais très bien, des fois, t'as des vols qui t'arrivent, tu sais très bien que tu retrouveras rien. Moi, on m'a volé des autoradios, j'ai porté plainte contre mon assurance, m'a réclamé, j'en avais rien à foutre en fait.
Erwan est avec nous au 32-16. Bonjour Erwan.
Bonjour l'équipe.
Bonjour Erwan.
Avec un prénom breton, vous nous appelez d'où ? Du Morbihan.
C'est étonnant.
Audrey Lamy, est-ce que vous trouvez normal ce qu'elle vient. Enfin, est-ce que vous dites bravo, elle fait preuve d'empathie.
Je vais pas dire un bravo, je vais dire elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle a fait cette chose-là, tant mieux pour elle, tant mieux pour les autres d'ailleurs.
Ça a rien changé parce qu'il y a eu quand même un procès. Hein.
Mais par contre, moi je raccueille un peu plus loin dans sa démarche. Dans l'endroit où elle habite, hein, je sais pas exactement où elle habite.
Ah, c'est dans les rues.
Qu'elle mette une maison ou un appartement ou pour des gens qui sont dans la rue.
Pourquoi ?
Ça serait bien aussi comme action. Parce que là.
Elle n'aurait plus besoin de cambrioler.
Pourquoi elle devrait faire ça ? Mais c'est parce qu'en fait, elle a de l'empathie alors, pour des gens qui ont cambriolé. Elle porte plainte. Bon, il y a un procès, effectivement.
Elle a porté plainte.
Oui, elle a porté plainte. Mais par contre.
Elle a retiré sa plainte.
Mais par contre, pour moi, il faut qu'elle aille beaucoup plus loin, maintenant, sa démarche.
Non, on ne sait pas si elle participe. Peut-être que, justement, le fait qu'elle fasse ça, ça correspond à son système de valeurs. Et peut-être qu'on ne sait pas si elle fait des dons ou si elle participe à des œuvres. Enfin, on n'a pas tout le curriculum vitae moral de Mme Lamy.
Je suis d'accord avec toi, mais ce qui peut choquer, c'est la valeur de ce qui a été volé, quand même plus de 18 000 euros, c'est pas rien. Quand t'as des Français qui n'arrivent même pas à démarrer le mois avec un compte positif,
et à côté,
et que t'entends,
elle a les moyens d'être généreuse.
En fait. Voilà. Moi j'ai les moyens, je vous emmerde, 18 000 euros.
Mais si vous voulez pas qu'il y ait 18 000 euros de montre, je sais pas quoi, allez pas voir ses films, puis achetez pas ses spectacles.
Non, mais ça fait très bien.
Vous mélangez tout, elle a les moyens d'être généreuse.
Bah oui,
c'est Pécadi.
Mais on aimerait tous se dire, mais je m'en bats les steaks des 18 000 euros. On aimerait tous pouvoir se dire.
Mais c'est top si ceux qui ont les moyens d'être généreux sont le sont.
Oui, mais c'est facile quand t'as beaucoup d'argent d'être généreux.
Mais non, c'est pas facile. Non, mais c'est la même polémique qu'on a eue avec Bernard Arnault quand il a fait un don pour Notre-Dame. On a dit, mais c'est rien, etc.
Ça n'a rien à voir.
En fait, si, parce qu'en France.
Il n'a pas financé des
délinquants,
Bernard Arnault.
On crache sur les.
C'est la reconstruction
de Notre-Dame. Oui, mais
il n'a pas financé la campagne de Sarkozy, parce qu'en parlant de délinquants,
en plein temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est
qu'en France, tu as les moyens. Peut-être que tu as les moyens. En fait, on ne reconnaît pas ta générosité. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est généreux, qu'il a les moyens, bah encore heureux. Enfin, encore heureux.
Que ce que tu veux.
Direct,
mais
fait,
je le cautionne pas. Je dis juste qu'il n'y a pas la juger de ce que
c'est ta morale à toi.
C'est la morale à toi.
On s'en fout. La meuf elle fait ce qu'elle veut.
Mais la valeur morale, c'est de considérer quand il y a un délit, il doit y avoir une sanction. Enfin,
il y a une sanction. On était jugé, on s'en sanctionné.
Moi, je te dis, j'aurais porté plainte, pas parce que c'est 18 000 euros, mais parce que t'es rentré chez moi et que chez moi, c'est quand même c'est mon intimité, c'est comme un viol.
Et quelque chose, moi je préfère, si t'as besoin de quelque chose, demande, mais ne vole pas.
Non, voilà. Mais toi, tu vis.
Bah, oui, mais arrête,
mais
c'est la vérité.
Il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ne voleront pas. C'est une question aussi de
cours. Oui, d'accord.
Devant les JO, j'aurais bien habité dans ton appart. Il est plus près des. Tu pourrais me le prêter, s'il te plaît, vu qu'il est plus près des.
Avec plaisir.
Ah, ben merci, Olivier.
Moi, je t'accueille avec plaisir. Il y aura Audrey Lamy qui sera là déjà. Et ça sera sympa.
Christelle avec son fils pourront venir, comme ça, ils seront en sécurité.
Christelle et ses gâteaux, surtout. Christelle ne vient pas avec ses gâteaux.
Elle s'en fout de son fils.
S'en fout, lui,
c'est surtout les gâteaux de Christelle. Erwan, merci d'avoir appelé au 32-16 dans un instant, parce que j'ai énormément d'appels. Mais où est passé Anaïs Sens? Bah oui, Emmanuel Macron a tout bousculé ce matin.
Ah oui, l'appel de jeunes hommes de 30 à 40 ans.
On est obligé de remettre tout à l'endroit et Anaïs Sens se prépare. C'est on s'en fout pas à suivre sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot. Ouais.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Bruno Poncet, le cheminot, Stéphane Manigol, le restaurateur, Joël Dagosséry, la coach de vie. On est à près de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Vous le savez, RMC est la seule radio officielle des JO. Et pour cela, on a décidé de vous gâter cette semaine. On vous offre 100 places, des places introuvables, mais RMC a réussi à se les procurer pour vous, pour vous les faire gagner. Alors c'est très simple, si vous voulez par exemple participer à la cérémonie d'ouverture, à la finale du 100 mètres, au judo, au tennis de table, vous envoyez Paris 2024 tout attaché, sans espace, Paris 2024 au 7-32-16, Paris 2024 au 7-32-16, à vous de jouer, et dans une demi-heure environ, une gagnante ou un gagnant avec nous en direct pour remporter ces deux places. On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Anaïs Sens, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Des milliers de motards ont manifesté partout en France ce week-end contre le contrôle technique obligatoire des deux roues. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, notre GG motarde?
Motarde.
Bah, grande gueule motarde.
T'as la motarde qui te monte au nez.
Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais, j'étais, en plus, j'étais avec des copains motards ce week-end, ils étaient vénères. Ah non, on s'en fout pas.
T'as pas manifesté, toi?
Non. J'ai plus de batterie.
Bon. Joël, on s'en fout pas. Stéphane.
Oh, moi, je m'en fous pour les laisser parler.
Bon, alors, le décret entre en vigueur aujourd'hui. Sont concernés pour l'instant les motos, les scooters et les quads immatriculés avant le 1er janvier 2017. 78 points de contrôle au total à faire vérifier tous les 3 ans, mon cher Bruno.
Non, mais c'est chaud parce qu'en fait, tout le monde sait qu'un motard est un motard censé. Sa moto, il monte pas dessus si elle a un problème, quoi que ce soit, quoi. Surtout de sécurité, parce que là, c'est surtout les organes de sécurité qui vont regarder. Ils s'en foutent si le moteur marche ou
pas. Tout le monde n'est pas censé.
Non, si, je te jure. Franchement, quand t'es dedans, mais tu joues ta vie sur une moto. Non, mais sérieux. Par contre, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est surtout sur les scooters, et malheureusement, pour les scooters de livraison. Enfin, moi, je suis des fois des scooters de livraison, mais je sais pas comment
ils roulent. Ils sont contrôlés.
Non, mais ils vont être contrôlés. On en reparlera. Moi, je pense que.
Ah, c'est vrai, les vieux scooters que je croise, complètement pourris avec le sac qui tient à moitié derrière.
Et ta pizza, tu sais que c'est.
J'attends de voir le contrôle technique.
Non, mais le mec, il est en route, il roule à 10, parce que là, il est limite en reculant tellement que ça marche plus.
C'est des mobilettes, c'est pas des scooters.
Ouais, mais sauf que
ça n'existe plus, c'est scooter.
Ouais, c'est scooter, mais sauf que là, il y a un vrai sujet.
C'est des vélos,
j'ai des copains motards, ils sont dingues en fait. En plus, moi j'ai beaucoup de copains motards qui ont des très très vieilles motos. Et ils se posent plein de questions sur comment va être le contrôle. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit pour faire les contrôles réellement, tu vois.
Oui, ça, c'est
parce qu'il faut mettre un pont pour une moto, c'est pas un pont pour une voiture. Enfin, il y a plein de choses, quoi, en fait. C'est hyper compliqué. Moi, je sais pas cette mesure-là.
Ça, c'est l'Europe, qui nous l'a imposé.
Oui, et en plus, ça fait 5 ans que la France freinait des deux pieds pour pas le faire. Ah, bon,
Du racket pur et simple, dit la Fédération française des motards en colère.
C'est vrai que ça va être un point supplémentaire pour les propriétaires de motos et de scooters. Stéphane. Ça, c'est sûr. Non, mais Joël, il s'en fout. C'est Joël,
les laisser parler.
Joël,
non, mais c'est vrai que c'est du racket, et je vois pas pourquoi vous, les motards, vous échapperiez à la folie racketeuse de l'État. Enfin, il y a raison. Tout le week-end, je les ai entendus. Oui, nous, on lustre bien nos motos. Nous, on prend soin. Nous, vous êtes pas comme les autres. Si, messieurs, dames, vous êtes comme les autres Français, vous allez raquer. Donc, je suis désolée.
Elle est grand par jalousie.
Ouais, tu vois, elle est jalouse. Elle veut attacher une moto pour Noël.
Mais non, mais t'as l'impression qu'ils étaient parés de toutes les vertus parce qu'ils sont motards. Ben non, vous êtes des Français comme les autres. Vous payez.
Oui, on paye déjà pas mal en fait. En moto, bon. Tu sais qu'on paye déjà pas mal.
Les GG, qui est sur TikTok?
Non, pas moi. Pas
moi, je m'appelle Kevin Bossuet, on avait conseillé d'y aller.
T'as essayé, Olivier? T'as un compte TikTok?
Oui, j'ai supprimé. J'ai essayé, je voulais voir parce que ma fille y est beaucoup et je voulais savoir à quoi ça ressemblait.
Surtout, tu voulais.
T'as une heure, hein.
Et là, j'ai eu peur, je me dis, c'est la fin de l'humanité.
J'ai envie de voir danser, tu sais, faire des chorégraphies avec tes enfants et tout.
Sur Aya. Imagine Jojo.
Allez, GG. La nouvelle version du réseau social comprend désormais un système de récompense. Regarder les vidéos chaque jour, se connecter, aimer des vidéos permettra dorénavant d'obtenir des bons d'achat sur des plateformes comme Amazon, par exemple. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Stéphane?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout. Hein.
Joël?
C'est chaud.
Non, mais l'arc TikTok Amazon, c'est l'arc du mal. Enfin, l'arc
oui, vraiment.
Non, mais j'ai
failli
venir.
L'axe majeur.
Là, en fait, on va récompenser ton addiction.
On va récompenser l'addiction, alors qu'en fait, on nous explique qu'il faut moins d'écran, etc. Mais moi, je soupçonne la Chine. Et en fait, ça, vraiment, je crois que c'est une attaque. On a l'air, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une attaque de la Chine bien stratégique. Parce que faire ce lien entre Amazon et TikTok, enfin, c'est
pas
un truc
d'Amazon, il y aura d'autres.
Oui, oui, mais quoi entre, non, oui, je... Parce qu'en fait, t'es accro à ton écran et à TikTok, non?
Stéphane,
c'est vrai que j'ai aussi monté j'ai créé mon compte TikTok sur mon compte Instagram. Donc tu peux faire des parallèles Insta, Facebook, etc. Mais je suis comme toi, j'ai regardé ce qui s'y passait. Franchement, c'est un peu le fond des chiottes, quoi. Hein.
Mais est-ce que c'est bien de récompenser, de rémunérer l'addiction?
Non, je pense que là, il faut sortir.
Le temps que tu passes devant.
Il faut sortir un peu de l'oisiveté. L'oisiveté ne peut pas être récompensée. Enfin, c'est juste un signal hyper toxique pour nos gamins.
Il y a aussi des questions sur.
Ce sera interdit aux mineurs, évidemment.
Ouais. Oui, bien sûr. C'est vrai que les interdictions mineures sont
pour l'instant, c'est que sur Android.
J'ai regardé le porno vendu du temps.
C'est que sur Android pour l'instant, mais bon, ça arrivera bientôt chez Apple. Ouais, non.
Non, mais c'est dingue parce qu'en plus, là, quand tu regardes les critères, ça veut dire que les gamins, plus ils regarderont, plus. En plus, il faut qu'ils regardent, mais en plus, il faut qu'ils likent. Ça veut dire qu'ils vont liker et regarder à tare basse, ils vont tout faire que ça toute la journée. Déjà, que les gamins, ils lisent plus de livres en vrai. Là, c'est quand même hyper inquiétant. Moi, je trouve que TikTok fait partie de ces choses qui aujourd'hui devraient être interdites en France, en fait. Parce que c'est vraiment la pire des applications. Et d'ailleurs, on voit passer des choses sur TikTok.
C'est pour vendre de la pub. Hein.
Et la plupart des gamins, tu vois, aujourd'hui, toutes ces histoires de harcèlement, c'est souvent sur TikTok ou même sur Snapchat. Et moi, je trouve vraiment qu'à un moment donné, il faut quand même faire du taf. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous parler des réseaux sociaux, ouais, c'est bon, la liberté. Enfin, la liberté de traumatiser un gamin ou une gamine en lui faisant des photos d'elle à poil sur TikTok et de la faire passer partout.
Et puis,
c'est un outil déstabilisation.
La récupération de nos données. Enfin, on sait que TikTok, c'est aussi une porte d'entrée des autorités chinoises en Occident.
Tu leur files ta carte bleue après, parce que forcément, ils vont pour créditer tes points, machin, il faudra leur filer une carte bleue. Enfin, ce qu'ils le disaient, c'est interdit aux mineurs parce que les mineurs n'ont pas le droit d'avoir un compte pour rémunérer et tout.
Bah, c'est non, mais ils font ça pour augmenter leur audience de façon très significative et vendre de la pub derrière. C'est un média. Et d'ailleurs, on doit se poser la question de pas peut-être que les soumettre aussi à l'ARCOM comme un média traditionnel et soumis à l'ARCOM. Parce que, en fait, t'as quand même énormément de pseudo-infos qui passent sur ces réseaux sociaux. C'est pas contrôlé.
Ah bah
c'est le Far West. Pourquoi tu mets des contraintes aussi fortes dans les médias, entre guillemets, traditionnels? Et là, tu fais ce que tu veux. Tu peux raconter ce que tu veux.
N'importe quoi, ouais. Anaïs Sens.
Les Français sont-ils généreux en pourboire?
Non.
Une étude fait le classement. Écoutez les GG, une étude fait le classement des régions où les clients sont les plus adeptes de cette pratique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Stéphane?
Non, on s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas du tout.
Selon une enquête du spécialiste des solutions de paiement Sundell, la région PACA et l'Occitanie sont les régions qui donnent le plus souvent des pourboires. Ça fait partie des habitudes dans le Sud-Est. Hein. Où sont les clients les plus radins? Dans les de pays de la Loire ou encore dans le centre-Val de Loire? Bah oui, c'est chez toi. Alors
chez
ça, c'est le classement.
Français, ça m'étonne pas.
Olivier, ça, c'est le classement des régions où on donne le plus souvent des pourboires. Mais où donne-t-on les plus grosses sommes? Eh oui. Dans le Grand Est, avec en moyenne un pourboire de 6,4% de la note. Podium complété par les pays de la Loire et l'Île-de-France.
Et on donne combien, alors, en moyenne?
À peu près 6% de la note, 10%.
C'est moins. Il faut quand même préciser que le service est compris.
15%.
Oui, dans le...
Contrairement aux États-Unis, par exemple, tu rajoutes par rapport à ce que ton
business. Si tu veux.
C'est pour ça que les gens donnent pas de pourboire.
Vous en donnez des pourboires?
Moi, oui. J'ai pas de réflexe pour donner des pourboires.
T'en donnes? C'est quoi tes critères?
Déjà, il faut que tu me fasses rire.
Ah bon? Il faut que tu sois un serveur un peu sympa. Non, mais
c'est un clown.
Non, mais pas du tout. Mais non, mais un serveur un peu sympa, tu vois, qui fait un peu de l'humour ou une serveuse. Non, pas du tout, pas forcément. D'ailleurs, il faut peut-être plus les femmes. J'ai l'impression que je donne un peu plus aux femmes qu'aux hommes. Et aussi plus jeunes. Donc, si je perçois que tu es étudiante ou étudiant, je vais avoir plus tendance à lutter du pourboire.
C'est
voilà.
C'est une garde à vue.
Bruno, tu donnes, toi?
Je donne tout le temps et je donne même quand je bois un coca ou un café, je donne tout le temps. Et c'est un truc. Hier, tu vois, j'étais au restaurant avec ma meuf et sa mère. Et en fait, hier, j'ai dû laisser 10 balles, je crois. 10 balles et on a payé 120 balles à 3, tu vois. Donc en fait, moi, c'est, je donne tout le temps. C'est comme ça. Et en plus, c'est un réflexe.
Même si le service n'a pas été exceptionnel.
Non, mais je leur dis, par contre, je leur dis, je laisse moins. Tu vois, je vais laisser 20 centimes. C'est un peu humiliant. Tu sais, 20 centimes.
Ah, ouais, non, ça, c'est pas cool, ça.
Non, mais enfin, si le mec t'a traité comme une merde, j'ai quand même pas lui dire merci.
Bah non, mais tu donnes pas, alors.
Ah si, il donne 20 centimes pour bien qu'ils comprennent que, mec.
D'accord. L'humiliation.
Oui, l'humiliation.
Humiliation par le pourboire.
Non, mais c'est Charles Poussini qui m'a appris.
Stéphane, dans tes restaurants, est-ce que les gens donnent des pourboires?
Ouais, c'est sont assez généreux. D'ailleurs, tout ce qui est établissement un peu gastro, oui. C'est là où ça donne le plus. Hein. Non, à une époque, ça montait jusqu'à 1000 euros par mois pour un maître d'hôtel. Hein. Ah ouais, en plus de la rémunération, oui. Donc c'est colossal. Mais tu sais, moi j'ai voulu tester l'application Sunday. Tu sais, chez moi, ils poussaient en disant mais c'est pratique parce que sur ton TPE, tu payes et puis tu as au client est demandé est-ce que oui, vous voulez laisser un pourboire 5, 10, 15, 20%. Et je l'ai testé en tant que client dans un restaurant. Première fois, j'y vais, super service et tout. Je laisse un pourboire. J'avais laissé un pourboire conséquent avec ma carte personnelle. Deuxième fois, pareil. Troisième fois, on me dit bon, bah alors comme d'habitude, vous payez avec cette carte l'addition et avec l'autre carte, vous laissez le pourboire, quoi. On t'a pas demandé si t'as passé un bon moment, rien. J'ai dit mais jamais je mettrai ce système en place parce que comme tu l'as rappelé, Olivier, le service est compris. Alors que dans des pays où c'est pas le cas, notamment aux États-Unis, où t'as une base assez faible et le service n'est pas compris. Effectivement,
il faut quoi ? On donne les critères de Joël, donc on l'a bien compris.
Non, mais il faut
la faire rire, il faut être jeune. Et voilà.
Il faut que ce soit conforme à ce que tu recherches quand tu vas dans un restaurant. Si tu cherches pour aller fêter un événement, un anniversaire, il faut qu'ils aient pas oublié les bougies, petit message. C'est les attentions que c'est la valeur ajoutée, la
norme, le petit mot sympa,
le petit plus qui fait que. C'est ce que je dis moi à mes maîtres d'hôtel ou à mes serveurs ou aux cuisiniers d'ailleurs. Je leur dis vous êtes dans un métier formidable où plus vous allez faire bien votre travail et plus à un moment le client va dire bah tiens c'était bien, on m'a bien bercé, je vais laisser un pourboire. Bah moi je laisse systématiquement un pourboire lorsque
Anaïs, quand ils en font trop.
Laisse jamais de pourboire Anaïs.
Non mais pardon, non, quand ils en font trop aussi c'est chiant.
Non mais le trop.
Oui c'est vrai.
Anaïs, pourquoi t'es une pince comme ça? Tu donnes jamais de pourboire.
Non c'est juste j'ai pas le réflexe.
Arrête pas de nous dire que t'es vrai.
Mais non mais j'ai pas le réflexe. J'en donne, mais je.
J'ai des associations, mais c'est.
Non, mais je vais rectifier.
Moi aussi, j'ai un serveur chez moi.
J'ai testé en tant que cliente l'application là, dont je parle.
Il donne à la cantine ici.
Et rappelons que quand même le problème majeur des restaurateurs c'est que les clients reviennent dans nos établissements, ce qui est loin d'être le cas. Et tous les restaurateurs qui nous écoutent sont plutôt sur cette ligne. Non, le pourboire c'est vraiment pas un sujet. On a juste envie que les clients viennent chez nous déjà, ce qui nous permet accessoirement de pas donner des pourboires aux salariés, mais de leur payer leur salaire.
Si la personne donne un pourboire pour toi, le restaurateur, c'est un indicateur. C'est-à-dire que la personne reviendra, elle était contente, elle a passé un bon moment.
Oui, mais faut pas lui forcer la main. Tu vois, sur les plateformes, on te force la main. Voulez-vous donner un pourboire?
Est-ce que je peux avoir un pourboire pour mon petit Osef?
Selon mes critères, tu nous as pas fait rire, c'est zéro.
Si, Anaïs, c'est une femme déjà, donc elle rentre dans mes critères.
Ah, merci.
Elle est gentille, elle nous fait rire. Elle est belle.
Quelle feuille.
Elle a un salaire d'étudiante. Merci.
Qu'est-ce que t'as demandé, Jojo, là?
Tu sais que son service est compris. Elle est payée pour faire.
Bah oui, mais comme les serveurs.
En plus, elle coûte une blague pour répondre.
Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on réduit ton fixe, Anaïs, et une partie en pourboire chaque jour.
Non, mais il n'y a pas que chez les coiffeurs. Chez les restaurateurs, il y a aussi chez ton coiffeur.
Moi, chez les coiffeurs, j'en laisse.
Est-ce que tu donnes, tiens,
ah oui, tiens, c'est
chez ton coiffeur. Parce que le restaurateur, je ne le vois bien pas donner.
Non, mais pardon, je ne savais même pas.
Ah, moi, je vois des gens donner chez le coiffeur.
Moi, j'en donne chez le coiffeur. Oui, mais vous n'avez pas mon pouvoir d'achat.
Moi, quand on me lave les cheveux, qu'on fait un joli massage de la tête, je peux t'assurer que je laisse un pourboire.
C'est génial.
Parce que c'est. Et je veux que de l'eau froide. Ah bon, pas d'eau chaude,
ah bon,
de l'eau froide. Et ils mettent du tiède. Ils disent non, froid, froid, n'hésitez pas à enlever tout le chaud, je veux que du froid. C'est génial, là, surtout là quand il
est-ce que vous croyez que Audrey Lamy, là, c'est pour boire?
Bien sûr,
18 200 euros.
Je pense que oui.
18 200 euros.
Elle va pas en donner.
Allez, mes chers grandes gueules, merci Anaïs. Dans un instant, le GG7 et match. Après l'attaque de l'Iran contre Israël, est-ce que Israël doit riposter? C'est la question qu'on pose. C'est le match. Oui, dit Stéphane. Non, disent Bruno et Joël. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.